Chapitre 13. Destruction du monde napoléonien. Imposuerunt omnes sibi diadémata post mortem eius. Et multiplica sunt mala in terra. Maccabée. Ils prirent tous le diadème après sa mort, et les maux se multiplièrent sur la terre. Ce résumé des Maccabées sur Alexandre semble être fait pour Napoléon. Les diadèmes ont été pris et les maux se sont multipliés sur la terre. 20 années se sont à peine écoulées depuis la mort de Bonaparte et déjà la monarchie française et la monarchie espagnole ne sont plus. La carte du monde a changé. Il a fallu apprendre une géographie nouvelle. Séparés de leurs légitimes souverains, des peuples ont été jetés à des souverains de rencontre. Des acteurs renommés sont descendus de la scène ou sont montés des acteurs sans nom. Les aigles se sont envolés de la cime du Haut-Pin, tombés dans la mer, tandis que de frêles coquillages se sont attachés au flanc du tronc encore protecteur. Comme en dernier résultat, tout marche à ses fins, le terrible esprit de nouveauté qui parcourait le monde, disait l'empereur, et auquel il avait opposé la barre de son génie, reprend son cours. Les institutions du conquérant défaillent. Il sera la dernière des grandes existences individuelles. Rien ne dominera désormais dans les sociétés infimes et nivelées. L'ombre de Napoléon s'élevera seule à l'extrémité du vieux monde détruit, comme le fantôme du déluge au bord de son abîme. La postérité lointaine découvrira cette ombre par-dessus le gouffre où tomberont des siècles inconnus jusqu'au jour marqué de la renaissance sociale. Chapitre 14. Mes derniers rapports avec Bonaparte. Puisque c'est ma propre vie que j'écris en m'occupant de celle des autres, grandes ou petites, je suis forcé de mêler cette vie aux choses et aux hommes quand par hasard elle est rappelée. Ai-je traversé d'une traite, sans m'y arrêter jamais, le souvenir du déporté qui, dans sa prison de l'océan, attendait l'exécution de l'arrêt de Dieu? Non. La paix que Napoléon n'avait pas conclue avec les rois, ses geôliers, il l'avait faite avec moi. J'étais fils de la mer, comme lui. Ma nativité était du rocher, comme la sienne. Je me flatte d'avoir mieux connu Napoléon que ceux qui l'ont vu plus souvent et approché de plus près. Napoléon à Sainte-Hélène, cessant d'avoir à garder contre moi sa colère, avait renoncé à ses inimitiés. Devenu plus juste, à mon tour, j'écrivis dans le Conservateur cet article. Les peuples ont appelé Bonaparte un fléau, mais les fléaux de Dieu conservent quelque chose de l'éternité et de la grandeur du courroux divin dont ils émanent. Ossa arida, Dabo vobis spiritum et vivetis. Ossements arides, je vous donnerai mon souffle et vous vivrez. Né dans une île pour aller mourir dans une île, aux limites de 3 continents, jeté au milieu des mers où Camoens sembla le prophétiser en y plaçant le génie des tempêtes, Bonaparte ne se peut remuer sur son rocher que nous n'en soyons avertis par une secousse. Un pas du nouvel Adamastor à l'autre pôle se fait sentir à celui-ci. Si Napoléon, échappé aux mains de ses geôliers, se retirait aux États-Unis, ses regards attachés sur l'océan suffiraient pour troubler les peuples de l'ancien monde. Sa seule présence sur le rivage américain de l'Atlantique forcerait l'Europe à camper sur le rivage opposé. Cet article parvint à Bonaparte, à Sainte-Hélène. Une main qu'il croyait ennemie versa le dernier baume sur ses blessures. Il dit à M. de Montholon, si, en 1814 et en 1815, la confiance royale n'avait point été placée dans des hommes dont l'âme était détrempée par des circonstances trop fortes, ou qui, renégats à leur patrie, ne voient de salut et de gloire pour le trône de leur maître que dans le joug de la Sainte Alliance. Si le duc de Richelieu, dont l'ambition fut de délivrer son pays de la présence des baïonnettes étrangères, si Chateaubriand, qui venait de rendre à Gand d'éminents services, avait eu la direction des affaires, la France serait sortie puissante et redoutée de ces deux grandes crises nationales. Chateaubriand a reçu de la nature le feu sacré. Ses ouvrages l'attestent. Son style n'est pas celui de Racine, c'est celui du prophète. Si jamais il arrive au timon des affaires, il est possible que Chateaubriand s'égare. Tant d'autres y ont trouvé leur perte. Mais ce qui est certain, c'est que tout ce qui est grand et national doit convenir à son génie, et qu'il eût repoussé avec indignation ces actes infamants de l'administration d'alors. Entre parenthèses, mémoire pour servir à l'histoire de France sous Napoléon, par M. de Montholon, tome 4, page 243, note de l'auteur. Telles ont été mes dernières relations avec Bonaparte. Pourquoi ne conviendrais-je pas que ce jugement chatouille de mon cœur l'orgueilleuse faiblesse? Bien de petits hommes, à qui j'ai rendu de grands services, ne m'ont pas jugé si favorablement que le géant dont j'avais osé attaquer la puissance. Chapitre 15. Sainte-Hélène depuis la mort de Napoléon. Tandis que le monde napoléonien s'effaçait, je manquerais des lieux où Napoléon lui-même s'était évanoui. Le tombeau de Sainte-Hélène a déjà usé un des saules, ses contemporains. L'arbre décrépit est tombé et mutilé chaque jour par les pèlerins. La sépulture est entourée d'un grillage en fonte. Trois dalles sont posées transversalement sur la fosse. Quelques iris croissent aux pieds et à la tête. La fontaine de la vallée coule encore là où des jours prodigieux se sont taris. Des voyageurs apportés par la tempête croient devoir consigner leur obscurité à la sépulture éclatante. Une vieille s'est établie auprès et vit de l'ombre d'un souvenir. Un invalide fait sentinelle dans une guérite. Le vieux Longwood, à 200 pas du nouveau, est abandonné. À travers un enclos rempli de fumier, on arrive à une écurie. Elle servait de chambre à coucher à Bonaparte. Un nègre vous montre une espèce de couloir occupé par un moulin à bras et vous dit « Here, he died ». Ici, il mourut. La chambre où Napoléon reçut le jour n'était vraisemblablement ni plus grande ni plus riche. Au nouveau Longwood, Plantation House, chez le gouverneur, on voit le duc de Wellington en peinture et les tableaux de ses batailles. Une armoire vitrée renferme un morceau de l'arbre près duquel se trouvait le général anglais à Waterloo. Cette relique est placée entre une branche d'olivier cueillie au jardin des olives et des ornements de sauvages de la mer du Sud. Bizarre association des abuseurs des vagues. Inutilement, le vainqueur veut ici se substituer au vaincu, sous la protection d'un rameau de la Terre Sainte et du souvenir de Cook. Il suffit qu'on retrouve à Sainte-Hélène la solitude, l'océan et Napoléon. Si l'on recherchait l'histoire de la transformation des bords illustrée par des tombeaux, des berceaux, des palais, quelle variété de choses et de destinées ne verrait-on pas, puisque de si étranges métamorphoses s'opèrent jusque dans les habitations obscures auxquelles sont attachées nos chétives vies. Dans quelle hutte naquit Clovis? Dans quel chariot Attila reçut-il le jour? Quel torrent couvre la sépulture d'Alaric? Quel chacal occupe la place du cercueil en or ou en cristal d'Alexandre? Combien de fois ces poussières ont-elles changé de place? Et tous ces mausolées de l'Égypte et des Indes, à qui appartiennent-ils? Dieu seul connaît la cause de ces mutations liées à des mystères de l'avenir. Il est pour les hommes des vérités cachées dans la profondeur du temps. Elles ne se manifestent qu'à l'aide des siècles, comme il y a des étoiles si éloignées de la terre que leur lumière n'est pas encore parvenue jusqu'à nous. Chapitre 16. Exhumation de Bonaparte. Mais tandis que j'écrivais ceci, le temps a marché. Il a produit un événement qui aurait de la grandeur si les événements ne tombaient aujourd'hui dans la boue. On a redemandé à Londres la dépouille de Bonaparte. La demande a été accueillie. Qu'importe à l'Angleterre de vieux ossements? Elle nous fera tant que nous voudrons de ses présents. Les dépouilles de Napoléon nous sont revenues au moment de notre humiliation. Elles auraient pu subir le droit de visite. Mais l'étranger s'est montré facile. Il a donné un laissez-passer aux cendres. La translation des restes de Napoléon est une faute contre la renommée. Une sépulture à Paris ne vaudra jamais la vallée de Slaine. Qui voudrait voir Pompée ailleurs que dans le sillon de sable élevé par un pauvre affranchi, aidé d'un vieux légionnaire? Que ferons-nous de ces magnifiques reliques au milieu de nos misères? Le granit le plus dur représentera-t-il la pérennité des œuvres de Bonaparte? Encore si nous possédions un Michel-Ange pour sculpter la statue funèbre. Comment façonnera-t-on le monument? Aux petits hommes, des mausolées. Aux grands hommes, une pierre et un nom. Du moins, si on avait suspendu le cercueil au couronnement de l'Arc de Triomphe, si les nations avaient aperçu de loin leur maître porté sur les épaules de ses victoires. L'urne de Trajan n'est-elle pas placée à Rome, au haut de sa colonne? Napoléon parmi nous se perdra dans la tourbe de ces va-nu-pieds de mort qui se dérobent en silence. Dieu veuille qu'il ne soit pas exposé aux vicissitudes de nos changements politiques, tout défendu qu'il est par Louis XIV, Vauban et Turenne. Quoi qu'il en soit, une frégate a été fournie à un fils de Louis-Philippe. Un nom cher à nos anciennes victoires maritimes la protégeait sur les flots. Parti de Toulon, où Bonaparte s'était embarqué dans sa puissance pour la conquête de l'Égypte, le nouvel Argot est venu à Sainte-Hélène revendiquer le néant. Le sépulcre, avec son silence, continuait à s'élever, immobile, dans la vallée de Slaine ou du Géranium. Des deux saules pleureurs, l'un était tombé. Lady Dallas, femme d'un gouverneur de l'île, avait fait planter en remplacement de l'arbre défailli 18 jeunes saules et 34 cyprès. La source, toujours là, coulait comme quand Napoléon en buvait l'eau. Pendant toute une nuit, sous la conduite d'un capitaine anglais nommé Alexandre, on a travaillé à percer le monument. Les quatre cercueils emboîtés les uns dans les autres, le cercueil d'acajou, le cercueil de plomb, le second cercueil d'acajou ou de bois des îles et le cercueil de fer blanc ont été trouvés intacts. On procéda à l'inspection de ces moules de momies sous une tente au milieu d'un cercle d'officiers dont quelques-uns avaient connu Bonaparte. Lorsque la dernière bière fut ouverte, les regards s'y plongèrent. Ils vinrent, dit l'abbé Coquereau, se heurter contre une masse blanchâtre qui couvrait le corps dans toute son étendue. Le docteur Gaillard, la touchant, reconnut un coussin de satin blanc qui garnissait à l'intérieur la paroi supérieure du cercueil. Il s'était détaché et enveloppait la dépouille comme un linceul. Tout le corps paraissait couvert comme d'une mousse légère. On eût dit que nous l'apercevions à travers un nuage diaphane. C'était bien sa tête. Un oreiller l'exhaussait un peu. Son large front, ses yeux dont les orbites se dessinaient sous les paupières, garnis encore de quelques cils, ses joues étaient bouffies, son nez seul avait souffert. Sa bouche, entr'ouverte, laissait apercevoir trois dents d'une grande blancheur. Sur son menton se distinguait parfaitement l'empreinte de la barbe. Ses deux mains, surtout, paraissaient appartenir à quelqu'un de respirant encore, tant elles étaient vives de ton et de coloris. L'une d'elles, la main gauche, était un peu plus élevée que la droite. Ses ongles avaient poussé après la mort. Ils étaient longs et blancs. Une de ses bottes était décousue et laissait passer quatre doigts de ses pieds d'un blanc mat. Qu'est-ce qui a frappé les nécrobies ? L'inanité des choses terrestres ? La vanité de l'homme ? Non, la beauté du mort. Ses ongles seulement s'étaient allongés, pour déchirer, je présume, ce qui restait de liberté au monde. Ses pieds, rendus à l'humilité, ne s'appuyaient plus sur des coussins de diadème. Ils reposaient nus dans leur poussière. Le fils de Condé était aussi habillé dans le fossé de Vincennes. Cependant, Napoléon, si bien conservé, était arrivé tout juste à ces trois dents que les balles avaient laissées à la mâchoire du duc d'Enghien. L'astre éclipsé à Sainte-Hélène a reparu à la grande joie des peuples. L'univers a revu Napoléon. Napoléon n'a point revu l'univers. Les cendres vagabondes du conquérant ont été regardées par les mêmes étoiles qui le guidèrent à son exil. Bonaparte a passé par le tombeau comme il a passé partout, sans s'y arrêter. Débarqué au Havre, le cadavre est arrivé à l'Arc de Triomphe, dais sous lequel le soleil montre son front à certains jours de l'année. Depuis cet arc jusqu'aux Invalides, on n'a plus rencontré que des colonnes de planches, des bustes de plâtre, une statue du grand Condé, hideuse bouillie qui pleurait, des obélisques de sapin remémoratifs de la vie indestructible du vainqueur. Un froid rigoureux faisait tomber les généraux autour du char funèbre, comme dans la retraite de Moscou. Rien n'était beau, hormis le bateau de deuil, qui, sous la garde d'un prince ennemi des Anglais, avait porté en silence, sur la Seine, Napoléon et un crucifix. Privé de son catafalque de rocher, Napoléon est venu s'ensevelir dans les immondices de Paris. Au lieu de vaisseau qui saluait le nouvel Hercule, consumé sur le mont Oeta, les blanchisseuses de Vaugirard rôderont alentour, avec des invalides inconnus à la grande armée. Pour préluder à cette impuissance, de petits hommes n'ont pu rien imaginer de mieux qu'un salon de Curtius, en plein vent. Après quelques jours de pluie, il n'est demeuré de ces décorations que des bribes crottées. Quoi qu'on fasse, on verra toujours, au milieu des mers, le vrai sépulcre du triomphateur. À nous le corps, à Sainte-Hélène la vie immortelle. Napoléon a clos l'ère du passé. Il a fait la guerre trop grande pour qu'elle revienne de manière à intéresser l'espèce humaine. Il a tiré impétueusement sur ses talons les portes du temple de Janus, et il a entassé derrière ses portes des monceaux de cadavres afin qu'elles ne se puissent rouvrir. Chapitre 17. Ma visite à Cannes. En Europe, je suis allé visiter les lieux où Bonaparte aborda après avoir rompu son banc à l'île d'Elbe. Je descendis à l'auberge de Cannes au moment même que le canon tirait en commémoration du 29 juillet. Un de ces résultats de l'incursion de l'empereur, non sans doute prévu par lui. La nuit était close, quand j'arrivai au golfe Juan. Je mis pied à terre à une maison isolée au bord de la grande route. Jacquemin, potier et aubergiste, propriétaire de cette maison, me mena à la mer. Nous prîmes des chemins creux entre des oliviers sous lesquels Bonaparte avait bivouaqué. Jacquemin lui-même l'avait reçu et me conduisait. À gauche du sentier de traverse s'élevait une espèce de hangar. Napoléon, qui envahissait seul la France, avait déposé dans ce hangar les effets de son débarquement. Parvenu à la grève, je vis une mer calme que ne ridait pas le plus petit souffle. La lame, mince comme une gaze, se déroulait sur le sablon, sans bruit et sans écume. Un ciel émerveillable, tout resplendissant de constellations, couronnait ma tête. Le croissant de la lune s'abaissa bientôt et se cacha derrière une montagne. Il n'y avait dans le golfe qu'une seule barque à l'ancre et deux bateaux. À gauche, on apercevait le phare d'Antibes, à droite, les îles de l'Airain. Devant moi, la haute mer s'ouvrait au midi vers cette Rome où Bonaparte m'avait d'abord envoyé. Les îles de l'Airain, aujourd'hui île Sainte-Marguerite, reçurent autrefois quelques chrétiens fuyant devant les barbares. Saint Honorat, venant de Hongrie, aborda l'un de ces écueils. Il monta sur un palmier, fit le signe de la croix, tous les serpents expirèrent, c'est-à-dire le paganisme disparut et la nouvelle civilisation naquit dans l'Occident. 1400 ans après, Bonaparte vint terminer cette civilisation dans les lieux où le saint l'avait commencée. Le dernier solitaire de ses lords fut le masque de fer, si le masque de fer est une réalité. Du silence du golfe Juan, de la paix des îles aux anciens anachorètes, sortit le bruit de Waterloo, qui traversa l'Atlantique et vint expirer à Sainte-Hélène. Entre les souvenirs de deux sociétés, entre un monde éteint et un monde prêt à s'éteindre, la nuit, au bord abandonné de ces marines, on peut supposer ce que je sentis. Je quittai la plage dans une espèce de consternation religieuse, laissant le flot passer et repasser, sans l'effacer, sur la trace de l'avant-dernier pas de Napoléon. À la fin de chaque grande époque, on entend quelques voix dolentes des regrets du passé et qui sonnent le couvre-feu. Ainsi gémirent ceux qui virent disparaître Charlemagne, Saint-Louis, François Ier, Henri IV et Louis XIV. Que ne pourrais-je pas dire à mon tour, témoin oculaire que je suis de deux ou trois mondes écoulés? Quand on a rencontré, comme moi, Washington et Bonaparte, que reste-t-il à regarder derrière la charrue du Cincinnatus américain et la tombe de Sainte-Hélène? Pourquoi ai-je survécu aux siècles et aux hommes à qui j'appartenais par la date de ma vie? Pourquoi ne suis-je pas tombé avec mes contemporains, les derniers d'une race épuisée? Pourquoi suis-je demeuré seul à chercher leurs os dans les ténèbres et la poussière d'une catacombe remplie? Je me décourage de durer. Ah! Si du moins j'avais l'insouciance d'un de ces vieux arabes de rivage que j'ai rencontrés en Afrique, assis, les jambes croisées sur une petite natte de corde, la tête enveloppée dans leur burnous, ils perdent leurs dernières heures à suivre des yeux, parmi l'azur du ciel, le beau phénicoptère qui vole le long des ruines de Carthage. Bercés du murmure de la vague, ils entr'oublient leur existence et chantent à voix basse une chanson de la mer. Ils vont mourir.